Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous, un numéro consacré aujourd'hui à un sujet brûlant et très actuel. Le réchauffement climatique, ses conséquences et leur prise en compte dans notre métropole. Comme toutes les grandes agglomérations, Toulouse est confrontée aux problèmes que génère son importante population, le fort trafic routier qui en résulte, l'implantation de nombreuses industries, sans oublier bien sûr la présence d'un aéroport international sur son territoire. Quelles sont les conséquences de ces activités sur notre environnement et la qualité de l'air? Aggrave-t-elle celle du réchauffement climatique? Comment la métropole et ses élus prennent-ils en charge le problème? C'est le thème de cette émission. Que fait Toulouse Métropole pour lutter contre le réchauffement climatique? On peut répondre partiellement à cette question en indiquant d'emblée qu'il existe une commission environnement et développement durable à Toulouse Métropole. Cette commission a une présidente, elle s'appelle Elisabeth Toutu-Picard et elle est présente dans ce studio. Bonjour Elisabeth Toutu-Picard et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également adjointe au maire de Toulouse pour la coordination du développement durable. Alors ces problématiques environnementales et de développement durable, vous en avez pris la charge en tant qu'élu, mais est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui vous passionne ou est-ce que c'est parce que vous avez fait des études et peut-être une carrière professionnelle dans ce domaine?
Alors je dirais qu'il y a une suite logique en fait entre cet engagement municipal et puis une expérience professionnelle, un engagement professionnel, puisqu'effectivement dans ma profession je suis d'origine directrice d'hôpital et que j'ai eu l'occasion de m'intéresser de façon très très précise à ces questions au sein de mon établissement. Je suis allée chercher même une formation universitaire pour légitimer ma position et mes propositions. Et donc, lorsque Jean-Luc Moudenc m'a demandé de participer à sa campagne et à son projet, j'ai été très heureuse de pouvoir lui dire que j'avais cette expertise à proposer aux Toulousains. Et donc, du coup, il y a une logique et des complémentarités, je dirais, entre les deux univers, puisque le CHU, c'est une petite ville à l'intérieur de la très grande ville, et que nous rencontrons les mêmes problématiques et on essaye de trouver les mêmes solutions, parfois, que le niveau de la ville et de la métropole.
Donc c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, qui est très actuel. Je pense que vous êtes souvent mise à contribution et l'actualité vient, on l'a pu encore récemment, éclairer ce sujet. Alors quand on parle d'actualité dans cette émission, il y a quelqu'un qui nous rejoint à ce moment-là toujours, c'est Corinne Saint-Félix pour le bulletin d'information de l'actualité de la métropole. Métropolez-vous, l'actu. Et on commence ce flash avec les premières rencontres citoyennes climat et transition énergétique de Toulouse Métropole qui ont eu lieu lundi au TNT.
Et ces rencontres sont l'occasion pour les habitants, les entreprises et les associations de la métropole de découvrir, proposer et échanger sur les solutions et les méthodes nouvelles des acteurs du territoire face au changement climatique.
C'est l'heure aussi des premiers bilans sur les actions menées.
Une concertation publique a été lancée le 12 décembre 2016 sur le site internet www.toulouse-métropole.fr. Jusqu'au 1er mars 2017 et pendant cette période, la métropole a communiqué par le biais de ses réseaux sociaux sur plusieurs actions thématiques sur lesquelles tous les habitants pouvaient réagir, apporter des solutions, partager les bonnes pratiques, donner un avis sur les actions menées et les pistes de réflexion pour le plan climat, air et énergie territorial qui sera débattu en conseil de la métropole au printemps 2017. 298 contributions citoyennes ont été reçues et parmi les thématiques abordées, celles qui ont recueilli le plus de contributions concernent les transports, l'alimentation, l'eau et les déchets, et l'énergie et le logement.
Autre bilan et un anniversaire, celui de la nouvelle agence d'attractivité de Toulouse Métropole qui souffle sa première bougie.
L'agence d'attractivité de Toulouse Métropole est née de la fusion de Sceaux Toulouse, Convention Bureau, de l'Office du Tourisme de Toulouse et d'Invest in Toulouse. L'enjeu est de taille puisqu'elle doit permettre de propager le rayonnement de Toulouse Métropole sur le reste du monde, mais surtout de faire venir les touristes particuliers, mais aussi les touristes d'entreprise, et encore mieux de donner envie à des entreprises de venir sur notre territoire et même de s'y s'y implanter. 17 projets ont finalisé leur implantation d'ailleurs sur le territoire de la métropole en 2016. C'est un bon début. Parmi eux, Hyperloop, une entreprise qui veut construire les transports du futur et relier Toulouse à Montpellier en 23 minutes.
Il faut dire que le territoire de la métropole offre de nombreux avantages.
Outre la qualité de vie que nous connaissons bien, ces entreprises peuvent s'appuyer sur plusieurs pôles attractifs comme la recherche et l'enseignement supérieur, les filières de pointe pour l'oncologie, les sciences de la vie d'une part, les nouvelles technologies et le numérique d'autre part, mais aussi une pépinière de start-up. Côté tourisme, il y a eu en 2016 2 millions d'entrées dans les principaux sites, c'est-à-dire la Cité de l'Espace, le couvent des Jacobins, le Muséum de Toulouse ou encore la Basilique Saint-Sernin et Aéroscopia. Pour les congrès, il y a eu 484 projets traités par le Convention Bureau, 343 000 journées congressistes, le tout pour 20 millions d'euros de retombées.
Vous parliez de nouvelles technologies et du numérique. Eh bien, quand le numérique se met au service de la consommation, le résultat donne une économie d'énergie.
Toulouse Métropole met en œuvre une expérimentation de télérelève de l'eau pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2020, permettant la gestion intelligente des réseaux d'eau potable. Cette innovation technologique a pour objectif de maîtriser les pertes en eau potable sur le réseau et ainsi améliorer la qualité du service rendu aux abonnés. La télérelève de l'eau permet de gérer et de relever à distance sa consommation d'eau en temps réel sur Internet. L'expérimentation a été mise en place début 2017 à Cugnaux, Saint-Aurens-de-Gameville et Villeneuve-Tolosane, au cœur de la démarche de Smart City de Toulouse Métropole. Une démarche qui veut construire avec les citoyens la ville intelligente de demain. Plus fluide, plus attractive, mais aussi plus responsable.
Alors ça, Elisabeth Toutu-Picard, je pense que c'est le genre d'information qui vous intéresse forcément.
Oui, toutes, je dirais, les trois. Toutes, ouais. Les trois m'intéressent. Je ne peux pas ne pas faire la connexion avec les problèmes, les relations qui existent entre les problèmes de santé et d'environnement, auxquels je suis particulièrement sensible, doublement sensible, puisque non seulement je m'occupe effectivement d'environnement, mais également de santé dans mes activités professionnelles. Donc ça me renvoie aux problématiques de qualité de l'air. Il faut savoir que l'air au centre de Toulouse est de bonne qualité pour une raison très simple, puisqu'on est en plaine et puis parce qu'il y a du vent de temps et que ça nettoie très rapidement. Par contre, on a des soucis le long du périphérique, aux abords du périphérique, au moment des grands mouvements de voitures dans la journée. Bien sûr, le numérique au service de l'amélioration de la qualité de vie au quotidien et notamment la construction d'outils de suivi des éléments d'évolution de l'environnement et puis de la qualité du climat avec la construction d'un outil open data dans lequel on va essayer de réunir le maximum d'informations pour se créer des systèmes d'alerte et ensuite définir des plans d'action.
Voilà. Alors là, on est en plein dans notre sujet du jour. On se demande ce que fait Toulouse Métropole pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, on va tout de suite se lancer dans cette discussion avec vous, Elisabeth Toutu-Picard. On attaque donc la deuxième partie de Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Deuxième partie de Métropole et vous avec notre invitée Elisabeth Toutu-Picard, présidente de la commission environnement et développement durable de Toulouse Métropole. Notre sujet du jour, c'est donc le réchauffement climatique et ce que fait Toulouse Métropole pour lutter contre ce phénomène. On en parle régulièrement dans les médias, on sait qu'il préoccupe quand même beaucoup nos citoyens et je pense qu'il devrait les préoccuper de plus en plus dans les années qui viennent. À quel point sommes-nous concernés dans notre métropole toulousaine? Je vais donner quelques chiffres à titre d'illustration. Toulouse Métropole, c'est une population de près de 750 000 habitants. C'est la cinquième ville la plus embouteillée de France. Et oui, il faut savoir qu'en moyenne, chacun d'entre nous passe 35 heures par an dans les bouchons. C'est un aéroport international où transitent 8 millions de passagers par an pour plus de 90 000 mouvements d'avions annuels. Alors j'ai tendance à penser en lisant ça, rien qu'en lisant ça, qu'en termes de production de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, le bilan à Toulouse doit être quand même assez lourd. On va en parler avec vous dans quelques instants et puis on va parler des actions que vous menez. Avant ça, comme à chaque fois dans cette émission, il y a un micro-trottoir. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens de la métropole pour savoir si le sujet les préoccupait, quelle était leur perception de ce réchauffement climatique. Et dans ce micro-trottoir, nous leur avons demandé s'ils constataient un réchauffement climatique à Toulouse et quels signes ils envoyaient.
Métropole et vous, micro-trottoir.
Je suis déjà d'accord de dire qu'il y a justement le réchauffement climatique. En été, il fait extrêmement chaud ici.
Les saisons sont de moins en moins marquées, en fait, surtout l'hiver, même l'automne. Donc, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, déjà on sent une différence.
Le premier signe, c'est que on est en septembre, il fait toujours 32 degrés. Puis voilà, on a des hivers de plus en plus chauds, des étés de plus en plus chauds.
Je ne suis pas du tout d'accord pour ce genre d'affirmation, parce que le temps humain ne correspond pas au temps planétaire.
Est-ce que ça vous fait peur et pourquoi ?
Alors personnellement, il me fait peur quand même. Je trouve ça pas normal de pas forcément avoir de saison normale chaque année.
Ça fait peur, oui, un petit peu bien sûr, parce qu'on se dit quel avenir pour les enfants ou les petits-enfants. On a l'impression que l'homme, avec le progrès, fait un peu n'importe quoi aussi.
Bien sûr que ça me fait peur parce que on voit que y a tout qui change et qu'on on se dit ça va aller jusqu'où en fait.
Ça me fait pas peur parce que je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir vraiment. Et ma descendance, elle assumera son temps et elle plantera des arbres.
Que peuvent faire nos élus et qu'attendez-vous d'eux dans ce domaine ?
Utiliser ces énergies renouvelables de plus en plus.
Que les élus, ce qu'ils cherchent, c'est les voies, bien évidemment, l'emploi, donc c'est normal. Mais après, ça en fiche.
Je pense que ce n'est pas les élus qui changeront quelque chose, ce serait tout simplement les marques. Si un jour Coca-Cola décide d'arrêter du plastique et de faire que du verre, enfin, là, ça ferait un gros changement.
Voilà, donc les témoignages qu'on a pu recueillir en nous baladant dans les rues de la métropole. Il y a des avis qui sont parfois contrastés, mais on sait que les avis sont contrastés concernant le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous avez entendu là, parmi les réactions qu'on a pu recueillir ?
Je dirais qu'en fait, d'abord, la première remarque que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a, me semble-t-il, peut-être une légère confusion entre le problème de météo passagère et les problèmes de climat, de modification du climat. Ce qu'on ressent au quotidien, c'est en fait la météo ponctuelle, alors que le réchauffement climatique, c'est une affaire qui dure depuis déjà fort longtemps et qui nous permet de dire qu'il y a effectivement une modification du climat. Un monsieur disait qu'il y avait une différence entre le temps humain
et le temps planétaire.
Enfin, je pense que c'est plutôt du ressenti de l'évolution, des modifications des saisons, par exemple, qui confirme de façon subjective, effectivement, qu'il se passe quelque chose. Et je peux confirmer que l'année 2016 est d'ores et déjà considérée par les climatologues, je dis bien les climatologues et pas simplement les météorologues, comme l'année la plus chaude en fait de la décennie. Quand on parle de réchauffement climatique, on se réfère à une période extrêmement longue, on fait des comparaisons. Il y a toujours eu des périodes de réchauffement et de glaciation dans le climat de notre planète, mais ce qui est caractéristique de cette crise actuelle, c'est qu'en fait il y a une accélération en très peu de temps et qu'on a pu faire la connexion avec l'activité humaine et notamment l'activité industrielle, les fameuses, alors certains disent que c'est la période post-industrielle, en fait de lancement de l'activité industrielle, d'autres disent que ce sont les 30 glorieuses qui sont à l'origine de cette modification. Quoi qu'il en soit, il y a une accélération et ça, tout le monde peut le ressentir au quotidien.
Alors, quelque chose qui rejoint notre sujet d'aujourd'hui, la question qu'on pose à la fin, il m'a semblé que les gens avaient une certaine méconnaissance de l'action menée par les élus, par les politiques dans ce domaine, alors qu'on en parle beaucoup, on en entend souvent parler, au niveau international, certes, d'une part, et voire une certaine défiance. Ça vous étonne, ça ?
Alors, qu'ils se posent des questions, c'est très bien, mais les élus devraient peut-être davantage communiquer sur ce qu'ils font parce qu'ils ils agissent. Le souci, c'est en fait l'urgence du problème et puis les moyens qui nous sont donnés. Moi, je fais partie en fait des élus qui pensent que la lutte contre le dérèglement climatique doit être portée au niveau des collectivités territoriales et pas simplement au niveau des gouvernements. On l'a vu avec la COP21 de Paris, en marge en fait des négociations qui avaient lieu avec les chefs d'État. Il y a eu une espèce de COP parallèle qui était la COP de la société civile où se trouvaient les collectivités territoriales et donc les élus et qui se sont fermement positionnés en disant que si les gouvernements ne se bougeaient pas, eux, ils allaient agir parce que les effets du réchauffement climatique, ils sont très différents d'un pays à l'autre et surtout d'une région à l'autre et d'une ville à l'autre. On le voit en France. Et donc, c'est sur le terrain qu'il faut agir. Et il faut savoir que Toulouse, la métropole toulousaine, est particulièrement concernée en France. Elle sera particulièrement touchée par le réchauffement climatique par rapport aux autres régions de France.
Pour quelle raison ?
Un effet local. On nous dit, quand on observe qu'il y a un degré supplémentaire de température à Paris, nous en avons deux systématiquement. Et il y a un effet local qui s'appelle l'effet de Fun, qui fait qu'en fait, il y a des masses d'air chaud qui viennent du sud-ouest de l'Espagne et qui, une fois qu'elles ont franchi les Pyrénées, sont plaquées vers le sol. Et donc, ça crée un microclimat. Et donc, nous avons davantage de problèmes. Voilà. Et donc, on nous dit qu'à la fin du siècle, on risque d'avoir un paysage qui ressemble au sud de l'Espagne. Donc, il faut quand même...
Oui, j'ai vu aussi des prévisions de ce genre. Alors justement, l'échelon métropolitain, l'échelon de Toulouse Métropole et les 15 autres, il y a 15 métropoles en France, est-ce que c'est un échelon pour vous qui justement est extrêmement pertinent au sens où il a à la fois des moyens et une certaine souplesse pour agir rapidement?
Oui, il y a un effet de masse. Il y a un effet aussi de solidarité. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit ce monsieur. Qu'importe ce qui va arriver aux générations suivantes, c'est ici et maintenant qu'il faut agir parce que les décisions que nous prenons maintenant auront un impact sur nos enfants et nos petits-enfants. Et moi, je me sens personnellement responsable des décisions que je peux prendre et qui auront un impact sur ceux qui vont me suivre. C'est la solidarité, au moins à l'intérieur de l'espèce humaine. Alors, au niveau de qu'est-ce que nous faisons donc,
voilà,
concrètement.
Alors, voilà, bon. Moi je sais qu'il y a quelque chose qui existe, c'est le plan climat 2020. Alors, 2020 étant l'horizon, il y a trois grands axes, trois grands lignes, vous me corrigerez si j'oublie des choses. Il y a le premier, alors c'est les 20%. Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, diminuer de 20% la consommation énergétique et atteindre 20% de consommation en énergie renouvelable et de récupération.
Oui, tout à fait.
Si on les prend un par un, ouais. Quand on dit réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup.
Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs?
Alors,
les gaz
d'où
à effet
de serre? D'où ils viennent? Voilà. Alors, les gaz à effet de serre, c'est en fait toute cette espèce de gaz, c'est essentiellement du CO2. Il y a aussi du méthane. Il y a d'autres gaz qui sont tout aussi nocifs pour cette petite couche protectrice qu'il y a autour de la planète et qui nous permet de respirer et de vivre. Donc, essentiellement du CO2. Le CO2, il est émis sur la région, la métropole de Toulouse, essentiellement par les transports. 47% des émissions de gaz à effet de serre sont émis par
nos véhicules
à combustion thermique. Bien à combustion thermique, et 35% par les bâtiments. Les bâtiments, c'est en fait les consommations d'énergie.
C'est le chauffage, essentiellement.
C'est le chauffage, énergie fossile. Donc, en fait, notre stratégie découle très logiquement de ce constat. Et donc, dans le cadre du plan climat, nous avons toutes sortes d'actions qui visent d'abord la politique des transports, hein, les transports publics, le plan mobilité, ça c'est l'impact majeur sur les gaz à effet de serre. Donc, vous connaissez tout le programme mobilité, les lignes Linéo, le renforcement de la ligne de métro A, le téléphérique et le projet de troisième ligne de métro essentiellement, et puis tout ce qui est transport doux, enfin déplacement doux, on en a parlé tout à l'heure avec
Évite. De prendre la voiture autant que possible. Donc
Alors, je voulais dire ça en conclusion, je voulais me le garder en conclusion. Ouais. Il n'y a pas que les élus qui sont responsables de ce qui
bien
se
sûr.
Passe. Parce que quand on sait que 50%, je dis bien 50% des déplacements sur la métropole de Toulouse sont faits en véhicule à combustion thermique pour effectuer des déplacements de moins de 3 km, on voit bien que ce n'est pas simplement une question de politique de transport. Alors je reviens à l'origine des gaz à effet de serre. Donc on a les transports et après on a toute la politique de rénovation thermique et d'isolation thermique des bâtiments, essentiellement à destination des logements sociaux. Et tous les ans, on a plus de 1200 logements qui sont rénovés. Donc ça, ce sont nos cibles pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Alors concernant la consommation énergétique, cette fois-ci, diminuer de 20% la consommation énergétique, de quelle consommation énergétique on parle?
Alors on parle des énergies qui sont consommées par les bâtiments du patrimoine, hein, de la métropole. Et nous avons tout un volet de notre plan climat que nous avons baptisé administration exemplaire parce qu'il faut donner l'exemple avant de donner les leçons aux autres. Donc nous avons acquis un logiciel qui nous permet de suivre en temps réel nos propres consommations énergétiques de tous les bâtiments. Nous avons un patrimoine qui est quand même assez costaud, à la fois à l'intérieur de la ville de Toulouse mais réparti sur les pôles de la métropole. Et donc là, nous suivons ça très attentivement pour essayer de diminuer ça. Et dans le cadre des démarches solidaires que nous avons lancé au sein de la métropole, nous avons décidé de mettre à disposition de toutes les communes de la métropole qui souhaitaient le faire un conseiller, un expert justement en énergie pour permettre aux communes de la métropole de limiter en fait leur propre consommation énergétique. Donc c'est aussi une cible très importante.
Et puis donc il y a ce dernier axe, atteindre 20% de consommation en énergie renouvelable et de récupération. Alors là aussi il faut préciser ce qu'on appelle énergie renouvelable, les gens commencent à avoir une petite idée. De récupération, c'est peut-être pas forcément très facile à...
C'est très simple, c'est simplement une nuance de termes. Renouvelable, c'est ce qui est produit par la nature gratuitement, hein. c'est l'énergie du soleil,
du vent, de l'eau,
de l'air, voilà. Donc nous avons actuellement sur Toulouse un site avec du photovoltaïque sur les collines de pêche de Vide, et puis nous avons surtout deux centrales hydroélectriques, dont la dernière a été inaugurée par le maire-président il n'y a pas très longtemps à la Cavaltade. Donc ça, c'est des énergies d'origine naturelle. Nous avons d'autres gros projets d'installation. Pour le moment, je ne peux pas trop en parler parce que ça n'est pas encore communicable, disons. Mais on a plusieurs gros projets d'installation, surtout photovoltaïque. Alors, de récupération, c'est très simple. C'est en fait produire de l'énergie à partir de déchets qu'on a récupérés et qu'on recycle. Très concrètement, c'est en fait le réseau de chaleur urbain qui fonctionne avec l'incinération des ordures ménagères. On ne peut pas dire que l'ordure ménagère est une énergie naturelle ou voilà, renouvelable, bien que compte tenu de la masse de la population qui augmente, on est malheureusement à peu près certain, même si on essaye de limiter la production des déchets à la source, on sait qu'on aura toujours beaucoup de déchets dont il faudra se débarrasser. Donc l'incinération, à l'occasion de l'incinération de ces ordures ménagères, on dégage de la chaleur, et donc ça va nous permettre de développer notre réseau de chaleur urbain qui était déjà existant, mais on va faire passer le cap de la Garonne, faire sauter la Garonne aux canalisations pour aller desservir en fait toute la zone de Montaudran, de Malpère, d'Ampalo, et même le CHU, le site de Rangueil du CHU sera également desservi par cette énergie qui est propre, qui n'est pas émettrice de CO2.
Vous parliez d'énergie d'origine hydroélectrique tout à l'heure. Alors justement, vous voyez, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup ces temps-ci, et je pense que je ne suis pas le seul. Je me balade assez souvent au bord de la Garonne, et c'est souvent, presque tous les étés que je le constate, c'est qu'elle est de plus en plus basse. Moi, ça m'inquiète beaucoup déjà pour la faune et la flore aquatique, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, on ne va pas avoir des problèmes d'alimentation en eau de la ville ?
Alors, je partage votre inquiétude, je dois dire, parce que les prévisions des services de Météo France nous disent que, en 2050, le niveau d'étiage de la Garonne en période d'été va diminuer de moitié. Donc, il faut essayer de voir comment on peut anticiper ça. D'autant que c'est l'eau de la Garonne qui essentiellement est à l'origine de notre eau potable, bien sûr, après avoir été assainie. Donc il faut anticiper. Et c'est pour ça que dans notre plan climat, nous allons mettre une dimension supplémentaire à notre démarche, non seulement atténuer, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais également essayer de lancer un plan dit d'adaptation, c'est-à-dire d'anticiper toutes les conséquences de ce qu'on voit venir comme problème, notamment la ressource en eau, la ressource alimentaire également, et les îlots ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire les grosses différences de température qu'on observe déjà entre le centre-ville et la périphérie de la métropole, essayer d'anticiper ça pour bien le contrôler et définir des plans d'action. Et notamment par rapport à la ressource en eau, qui effectivement va être la grande question, à mon avis, du siècle, parce que ça va toucher pas simplement Toulouse, mais également le monde entier.
Oui, alors ça veut dire qu'il y aura peut-être des barrages qui seront construits sur la Garonne, encore d'autres ?
Alors ça ne relève pas du pouvoir de décision du président de la métropole. C'est une problématique qui est portée par l'État. Mais nous faisons en sorte de participer aux réunions, parce que bien sûr, ce sont les Toulousains qui seront directement concernés.
Bon, on en parlera peut-être lors d'une autre émission. Merci beaucoup Elisabeth Toutu-Picard pour votre venue et cet échange. J'espère qu'on aura
avec
répondu
plaisir
à certaines interrogations de nos auditeurs concernant ce réchauffement climatique. En tout cas, vous voyez qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a un plan qui est en cours. Donc oui, nos élus font quelque chose. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, passez un bon week-end et n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.